Orange Monnaie, le service de transfert, retrait d'argent et paiement par le mobile, vous souhaite une excellente année avec Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient jusqu'à 10h, heure de Paris, 9h, temps universel. Nous sommes vendredi et vous pourrez, dans 30 minutes, commenter l'actualité de votre choix. C'est la libre antenne. Vous revenez sur tous les sujets qui vous ont marqué ces derniers jours dans l'actualité française, africaine, internationale. Vous nous rejoignez et vous lancez le débat. 33 9 693 693 70. Vous nous envoyez également vos commentaires sur la page Facebook de l'émission ou encore sur le compte WhatsApp 33 6 89 28 53 64. Mais d'abord, comme tous les matins à cette heure-ci, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. C'est votre rendez-vous privilégié avec les journalistes de RFI. Vous entendez, vous écoutez le journal, vous souhaitez un complément d'information, eh bien vous nous appelez et ces mêmes journalistes vous répondent en direct tous les matins. Ça se passe comme ça sur l'antenne de RFI. On va commencer avec Olsen qui nous appelle de Brazzaville. Bonjour Olsen.
Bonjour Juan.
Bienvenue.
Bonjour à tous.
Bienvenue. Nous vous écoutons. Vous avez des questions sur la polémique que suscite en France l'utilisation des lanceurs de balles de défense par les forces de l'ordre.
Ok. En France, l'usage des lanceurs de balles de défense pendant les manifestations des Gilets jaunes est la cible de nombreuses critiques, dont le défenseur des droits. Mmh. Alors, comment la police justifie-t-elle l'utilisation des lanceurs de balles de défense lorsqu'on enregistre des blessures graves au niveau du visage ?
Allez, les blessures graves, le ministère de l'Intérieur en a recensé 4 personnes qui ont été grièvement blessées à l'œil depuis le début des manifestations des Gilets jaunes il y a maintenant 2 mois. Des chiffres qui sont dénoncés, contestés notamment par un collectif Désarmons-les qui affirme que 17 personnes ont perdu un œil lors des manifestations des Gilets jaunes. Bonjour Laura Martel.
Bonjour.
Journaliste au service France de RFI. D'abord peut-être rappelons ce que sont ces fameux lanceur de balles de défense.
Oui, alors d'abord, c'est une famille d'armes hein, dites non létales. Et celui qui est mis en cause, eh bien, c'est le LBD 40 qui a quasiment remplacé le flashball. Le LBD 40 qui lance des balles en caoutchouc de 40 mm, hein, d'où son nom, à plus de 300 km/h. Alors, il est doté d'un viseur électronique. Il est donc censé être plus précis que le flashball. Et également, il est plus puissant avec une portée maximale de 50 mètres. Alors, c'est normalement une arme de défense. Le directeur de la police a récemment rappeler à ses troupes que le LBD 40 peut être employé lors d'un attroupement en cas de violence à l'encontre des forces de l'ordre ou si elles ne peuvent défendre autrement le terrain qu'elles occupent. Autre règle pour éviter les blessures, une distance de 10 mètres minimum et des tirs uniquement vers le torse ou les membres. Mais en cas de danger pour les forces de l'ordre comme pour un tiers, c'est toujours le principe de proportionnalité de la riposte qui prévaut.
Or, comme le disait à l'instant Olsen, l'usage de ces armes fait polémique au regard des nombreuses blessures chez certains manifestants. Quelle est la réponse des forces de l'ordre ?
Alors leur patron, le ministre de l'Intérieur, défend les LBD. Il met en avant la violence des manifestants et des attaques, dit-il, systématiques contre les forces de l'ordre. Christophe Castaner qui a même ajouté que, en fait, sans les LBD, il ne resterait aux policiers, je cite, que le contact physique et il y aura certainement beaucoup plus de blessés ou l'utilisation de leur arme de poing qui est la solution ultime. Fin de citation. Alors, ce même argument de violence croissante des manifestants, dont certains iraient délibérément à l'affrontement, est repris par les syndicats des forces de l'ordre, même si certains agents reconnaissent qu'il est parfois difficile de bien utiliser le LBD en situation mouvante. Un responsable d'Alliance Police précise aussi au Journal Sud-Ouest que pour lui, en fait, il n'y a pas de tir délibéré au-dessus des épaules par les forces de l'ordre, mais que des rebonds ou des tirs réflexes peuvent peut-être expliquer les blessures au visage qui ont été recensées. Et puis à noter aussi hier, Juan, que devant un tribunal administratif qui a été saisi par la Ligue des droits de l'homme et la CGT pour demander justement la suspension des LBD, eh bien la représentante du ministère de l'Intérieur a indiqué qu'il y avait eu 1000 tirs de LBD depuis le début des manifestations. Et face à une situation quasi insurrectionnelle, dit-elle, on n'est pas sur un ratio déraisonnable. À noter que le tribunal doit statuer aujourd'hui sur
cette suspension. À suivre donc. Vous aviez une autre question, Olsen ?
Oui, Juan. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, annonce que les forces de l'ordre, avec lanceurs de balles de défense, seront équipées de caméras dès samedi. Mmh. Est-ce que ce dispositif pourra-t-il mettre fin aux violences policières ?
Ah, alors effectivement, à partir de demain, les forces de l'ordre qui utiliseront donc cette arme seront équipées d'un système vidéo, d'une caméra piéton, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça. Alors, à noter que ce dispositif doit dissuader les policiers d'utiliser de la violence, mais aussi bien sûr les manifestants qui pourront être plus facilement identifiés. Alors, sur son efficacité, les syndicats des forces de l'ordre estiment que certes, ça permettra de rassurer le public, de protéger aussi les tireurs de LBD d'accusations malveillantes, mais ils émettent en fait plusieurs réserves. Ils disent que c'est un peu une annonce politique. Plusieurs réserves d'ordre technique, notamment. D'abord, le nombre de caméras disponibles ne devrait pas permettre d'équiper tous les lanceurs de LBD. Ensuite, la position de tir rend les images difficilement utilisables parce que le bras en position de tir peut cacher cette caméra qui est fixée normalement
sur le torse.
Au torse. Voilà.
Et donc, avec le bras,
et voilà,
évidemment.
Quand on tire, on vise, le bras peut cacher les images. Et puis, autre problème, ces caméras, en fait, sont utilisées normalement pour des contrôles d'identité. Donc, elles ont une portée de 5 mètres. Or, on l'a dit tout à l'heure, oui. Le tireur est censé être à 10 mètres minimum de sa cible. Donc,
Ça veut dire quoi, qu'au-delà de 5 mètres, on ne voit plus rien sur l'enregistrement.
C'est très flou, on ne voit pas grand-chose. Alors, le son sera toujours utilisable, mais forcément, là, il y a un problème au niveau de la portée. Et puis, se pose bien sûr la question du déclenchement de la caméra, parce qu'elles ont une autonomie de 3 heures, elles ne peuvent pas filmer en continu. Alors, déclencher cette caméra, disent les syndicats, peut s'avérer difficile, voire dangereux pour les forces de sécurité, même si le ministre de l'Intérieur a déjà souligné que c'était un déclenchement automatique en conditions normales, mais si les forces de sécurité se retrouvaient bousculées ou à terre, là, il n'y aurait pas forcément un déclenchement nécessaire, enfin, en tout cas, obligatoire, ce qui risque évidemment de créer des débats d'interprétation sur la nécessité ou pas, dans une situation donnée, de déclencher cette caméra, et comme le souligne aussi le syndicat Alliance Police, à ce moment-là, l'absence d'image risque parfois de créer une suspicion de facto à l'encontre des tireurs de LBD.
Donc finalement, ce n'est pas la solution miracle, c'est ce qu'affirment effectivement plusieurs syndicats de la police française. Merci beaucoup Laura Martel, bonne journée à vous, et on remercie évidemment Olsen qui nous appelait de Brazzaville. Bonjour Mamadou.
Bonjour Juan Gomez.
Bienvenue à Paris sur les antennes de RFI, vous nous appelez de Dakar, on vous écoute.
J'aimerais savoir l'ancien star football George Weah.
Oui.
A pris fonction de président de Liberia il y a maintenant une année. Il avait comme objectif de sortir 1 million de Libériens dans la pauvreté. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Ah, qu'en est-il aujourd'hui ? Effectivement, c'était une des principales promesses de George Weah, le Ballon d'Or 1995. Réduire le nombre de pauvres dans son pays, il faut savoir que 80% de la population sur place vit avec 1 dollar par jour. Bonjour Carole Valade.
Bonjour Juan, bonjour Amadou.
Journaliste au service Afrique de RFI, vous étiez il y a encore quelques jours au Liberia à l'occasion du premier anniversaire de l'élection de George Weah, une élection qui avait suscité beaucoup d'espoir parmi les plus pauvres.
Oui, les classes populaires et les jeunes surtout ont massivement voté pour lui, alors à cause de sa popularité de footballeur d'abord, et puis de son parcours également, un président qui n'avait pas fait d'études dans sa jeunesse. On s'est même d'ailleurs moqué de lui à cause de son mauvais anglais pendant la campagne. George Weah donc vient d'une famille modeste dans un bidonville de la capitale, où je suis allé pour demander aux habitants ce qu'ils pensaient de cette première année. Eh bien, les gens s'impatientent parce que le changement tarde à se concrétiser. Le propos Agenda, par exemple, qui est le plan de développement quinquennal qui vise à lutter contre la pauvreté et dont parlait Amadou, n'a par exemple été présenté qu'au mois d'octobre.
Alors concrètement, que contient ce plan qui est très attendu sur place ?
Alors il touche à tous les secteurs, la santé, l'éducation, l'accès à l'électricité. En gros, l'idée c'est qu'il faut développer les infrastructures pour que le secteur privé puisse s'épanouir et donc créer de l'emploi, avec des objectifs chiffrés, par exemple construire 1000 km de route en 5 ans, et surtout faire de l'agriculture, qui emploie les 3/4 de la population, un secteur porteur, en multipliant les investissements pour produire localement 1/3 de la consommation en riz.
Ah oui, des objectifs donc très ambitieux. Mamadou nous demandait justement ce qui avait été déjà réalisé.
Puisqu'on parle de l'agriculture, il y a déjà la réforme agraire qui a été adoptée cette année et qui reconnaît enfin le droit coutumier sur la terre, parce que jusqu'à présent, toutes les terres qui n'avaient pas de titre appartenaient directement à l'État, qui pouvait donc les donner en concession à des entreprises. Donc ça devrait favoriser l'accès à la terre des paysans. Mais bon, au Liberia, comme il n'y a pas de cadastre, presque pas de titre de propriété, il va sans doute falloir encore attendre un peu avant d'en sentir les effets.
Ouais. Il y a une autre mesure annoncée par le président récemment, c'est la gratuité de l'université.
Tout à fait, elle a été accueillie par des explosions de joie sur le campus, où près de la moitié des étudiants ont abandonné leurs études faute d'argent, selon le gouvernement. Alors il y a aussi la formation de médecins, la construction d'hôpitaux, des crédits pour les petits commerçants. Mais pour l'opposition, tout ça, c'est des actions un peu désorganisées, sans véritable stratégie à long terme. Et surtout, elle pose une question, somme toute assez légitime, où trouver l'argent pour financer de tels projets?
Oui, de l'argent, il faut qu'il en trouve effectivement. C'est l'un des défis que doit encore surmonter Georges Weah et son gouvernement.
Oui, le premier défi, il est financier, parce que les fonds manquent, l'économie va quand même assez mal. Alors, il y a 25 millions de dollars américains qui ont été injectés, mais l'inflation continue de ronger les bénéfices des petits commerçants qui achètent leurs marchandises en dollars américains pour ensuite la revendre en dollars libériens, parce que les deux monnaies sont en figure dans le pays et que le dollar libérien perd régulièrement de sa valeur. Donc le gouvernement est à la recherche de partenariats publics-privés, du soutien des bailleurs de fonds. Le président lui-même, vous l'avez sans doute suivi, a multiplié les voyages à l'étranger cette année, sans toutefois toujours obtenir le succès escompté.
Ouais. Je vous ai écouté ces derniers jours sur l'antenne de RFI, évidemment, Carole Valade, et dans l'un de vos reportages, un économiste disait « Georges Weah est un jeune dirigeant et il ne peut pas tout faire en un an ». Et on voit bien que l'opposition lui reproche justement l'inexpérience du président, mais aussi l'inexpérience des équipes qui sont en place.
Ouais, des équipes aussi fragilisées par des nombreuses accusations de corruption qui ont été lancées cette année dans la presse, notamment le scandale de la disparition présumée des 100 millions de dollars américains. Il y a un autre grand défi aussi, c'est réconcilier un pays qui a tout de même été meurtri par 14 ans de guerre civile. Et pour cela, certains lui demandent de juger les criminels de guerre. Mais Georges Weah ne s'est plus vraiment prononcé là-dessus depuis son élection. Élection qu'il doit notamment au soutien de Prince Johnson, qui est l'un des principaux seigneurs de guerre, aujourd'hui devenu sénateur, ou encore de Howard Taylor, qui est l'ex-femme de Charles Taylor et aujourd'hui sa vice-présidente.
Merci beaucoup Carole Valade de toutes ces explications. Bonne journée Mamadou, vous nous appeliez de Dakar où vous nous écoutez sur les 92 FM Dakar. Il est 9h22 ici à Paris. Blaise, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Bamako et comme promis, nous vous avons rappelé car mercredi, faute de temps, vous n'aviez pas pu poser votre deuxième question et vous souhaitiez revenir sur ce rapport publié il y a quelques jours par l'ONG internationale Oxfam.
Tout à fait Juan. J'aimerais savoir à ce sujet comment, dans quelle mesure taxer les ultra-riches pour rendre aux pauvres pourrait être une solution pour réduire cette inégalité. Et en plus, Juan, quelles sont les autres mesures qu'on peut envisager?
Oui, l'ONG Oxfam qui, chaque année, publie un rapport sur les inégalités dans le monde. Pauline Leclerc, bonjour.
Bonjour.
Responsable de campagne sur les questions de justice fiscale et d'inégalité, Oxfam France. Merci de vous libérer encore ce matin quelques instants pour répondre à Blaise. Je rappelle que selon vos chiffres, la concentration des richesses s'est encore accentuée au détriment des plus pauvres. Vous expliquez que 26 milliardaires détiennent désormais autant d'argent que la moitié de l'humanité. Et pour inverser cette tendance, vous dites que la solution, c'est l'impôt, ce sont les taxes.
Absolument. Et ce rapport, il montre aussi que la contribution à l'effort commun des ultra-riches, il n'a jamais été aussi bas. Le niveau d'imposition des grandes fortunes et des multinationales n'a jamais été aussi bas. Et pourtant, on remarque que quand ces grandes fortunes ne payent pas leur juste part d'impôts, c'est des ressources en moins pour les États, pour financer des politiques publiques, des services publics. Donc l'imposition, la juste imposition des grandes fortunes et des multinationales, c'est la clé pour réduire les inégalités. Si les grandes fortunes, les ultra-riches ne payent pas leur juste part d'impôts, les États, ils vont n'avoir d'autre choix que soit d'augmenter la dette, soit de faire payer aux plus pauvres par des impôts injustes le financement de ces services publics. Oui. Et on montre que taxer davantage, et alors juste par les grandes fortunes, les ultra-riches, ça aurait un effet immédiat. Pour vous donner un exemple très concret, on a fait le calcul que si on augmentait de seulement 0,5% l'impôt sur la fortune des 1% les plus riches dans le monde, ça permettrait de scolariser 262 millions d'enfants aujourd'hui qui ne vont pas à l'école et d'offrir des soins de santé pour sauver la vie de 3,3 millions de personnes. Si j'ai encore quelques secondes,
allez-y, oui.
Ça me paraît important, la question de Blaise, pour sortir du préjugé selon lequel taxer moins les ultra-riches serait bénéfique à l'économie. Aujourd'hui, même le Fonds monétaire international recommande de taxer davantage les ultra-riches parce que ça serait bénéfique à la croissance, ça permettrait de réduire les inégalités et ça serait bénéfique pour la cohésion sociale.
Oui. Enfin, vous savez bien que les chiffres que vous publiez, certes, donnent le vertige, mais en même temps, ils sont contestés. Là, votre méthodologie est contestée. Quand on voit, par exemple, que les régions où la pauvreté a le plus reculé ces dernières années, c'est dans ces régions-là que le nombre de milliardaires a le plus augmenté. Et je pense notamment à l'Asie du Sud-Est.
Alors oui, c'est vrai qu'on a fait des progrès très importants pour lutter contre la pauvreté, pour la faire reculer. Mais ce qui est très frappant dans le rapport que l'on a sorti lundi, c'est que l'accroissement des inégalités va de pair avec un ralentissement de ces progrès contre la pauvreté. Et on a même noté que la pauvreté regagne du terrain en Afrique subsaharienne. Il est vrai que les inégalités entre pays ont tendance à se réduire, même si elles restent très importantes. Par contre, ce qui reste très prégnant, c'est les inégalités à l'intérieur des pays. Et puisque vous citez l'Asie, l'Inde fait partie des pays les plus inégalitaires où on a encore des millions de personnes qui sont enfermées dans la pauvreté et dans le même temps des milliardaires toujours plus nombreux.
Pauline Leclerc, Blaise nous demandait quelle autre solution pourrait être envisagée, hormis donc les taxes, les impôts.
Alors, on a une autre recommandation qui consiste à demander aux États d'adopter et de promouvoir des politiques d'aide au développement qui investissent prioritairement dans les services publics essentiels. Et puis, on s'adresse aussi aux grandes entreprises, à ces multinationales dont on souligne à la fois qu'elles ne payent pas suffisamment d'impôts, qu'elles pratiquent l'évasion fiscale. On leur demande aussi de partager de manière plus équitable leurs bénéfices. On a pu constater, notamment en France, par un rapport qu'on a publié sur les entreprises du CAC 40, la manière dont elles privilégiaient plutôt la rétribution envers les actionnaires plutôt que les salariés. Donc, il y a un vrai enjeu là-dessus. Et il faut aussi que l'État, les gouvernements exigent des entreprises qu'elles réduisent les écarts de salaire à l'intérieur des entreprises qui prennent aujourd'hui des proportions qui sont vertigineuses.
Blaise, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, tout à fait, Juan, comme d'habitude.
Comme d'habitude, vous êtes satisfait, tant mieux. Un grand merci à Pauline Leclerc d'Oxfam France de vous avoir répondu en direct sur l'antenne de RFI. On avait prévu d'autres questions ce matin, et notamment Ronaldo, le joueur de football condamné par la justice espagnole pour fraude fiscale, justement. Alejandro Valente, le chef du service des sports, aura l'occasion de revenir dans ce studio la semaine prochaine. Vous avez peut-être pris l'émission en cours, vous souhaitez réécouter certaines des réponses de nos experts ce matin, eh bien n'hésitez pas, rendez-vous dès maintenant sur notre application Pure Radio, et vous pouvez écouter autant de fois que vous le souhaitez, et réécouter d'ailleurs certaines explications du début de la semaine, de la semaine dernière. Rendez-vous donc sur Pure Radio. À suivre, dans 10 minutes, la libre antenne, vos réactions, vos commentaires sur l'actualité de votre choix. On reviendra sur l'investiture hier de Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo. Vous êtes nombreux à nous appeler de Bangui, la capitale centrafricaine, après le coup d'envoi hier à Khartoum au Soudan, des négociations de paix entre le gouvernement centrafricain, les groupes armés, des réactions aussi sur les propos de Luigi Di Maio, le vice-président du Conseil italien, qui accuse la France d'appauvrir l'Afrique en maintenant le franc CFA. Voilà quelques-uns des sujets que nous allons aborder ensemble dans la deuxième partie d'Appel sur l'actualité. Donc appelez-nous, 33 9 693 693 70. Je vous redonne le numéro WhatsApp de l'émission. Notez-le, enregistrez-le, hein, il est difficile à retenir de mémoire. 33 6 89 28 53 64. Vous êtes déjà plusieurs milliers sur ce compte WhatsApp. Donc on vous attend également sur ce réseau social.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.